franceinter.fr.
Bonjour Patricia et bonjour à tous. Les fans de Game of Thrones pourraient compter parmi les victimes collatérales de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Il se pourrait bien en effet que le programme culte Game of Thrones ne survive pas au Brexit. C'est en tout cas ce qu'assure très sérieusement le quotidien anglais The Independent, précisant qu'une grande partie du tournage de la série américaine se déroule en Irlande du Nord et qu'elle bénéficie ainsi de fonds européens. Or, le pays étant amené à quitter l'Union Européenne, ces fonds ne seraient bien sûr plus d'actualité. Série en danger, tout comme une bonne partie de la création audiovisuelle britannique, l'Europe n'a pas que du mauvais, elle aide aussi la création, et sans aide, pas de création. Et c'est donc l'une des conséquences du divorce annoncé. Divorce, c'est bien le mot qui continue de faire la une ce matin, et peu de journaux estiment qu'il s'agit d'un divorce par consentement mutuel. Bien au contraire, la tension est encore à son maximum entre les différentes parties, ceux qui s'en vont, ceux qui restent, ceux qui auraient voulu rester. Il y a ceux qui pétitionnent afin d'exiger un nouveau vote, il y a même ceux qui pétitionnent pour demander l'indépendance de Londres. D'un côté, ceux qui ont gagné, à l'image de Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, qui pourrait succéder à David Cameron à la tête du gouvernement britannique. Il militait pour le Brexit, il est donc dans le camp des vainqueurs, mais comme l'explique le JDD, Johnson veut enterrer le Brexit. En tout cas, il n'a pas l'intention de quitter l'Europe à tout prix et il entend plutôt prendre le temps de négocier un départ qui serait le plus avantageux possible pour le Royaume-Uni. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui veulent, à l'inverse, aller vite, notamment François Hollande, le président français, partisan d'un divorce ultra rapide afin de ne pas laisser penser que le vote de jeudi pourrait rester sans conséquences. C'est l'idée qu'il défendra demain à Berlin et il tentera de convaincre Angela Merkel qui, elle, est plutôt sur l'idée de prendre son temps. Il tentera de la convaincre tout en présentant une nouvelle vision d'une Europe qui protège, c'est ce qu'on confie à l'Élysée, protéger au sens d'assurer sa sécurité et celle de ses ressortissants, mais protéger aussi en avançant dans le domaine de la défense et dans le domaine social, protéger socialement, divorcer rapidement, divorcer en prenant son temps, deux visions, 100 000 inconnus, Royaume-Uni-Europe, la bataille du divorce, titre le journal du dimanche, divorcer ce n'est pas toujours simple, là ça tient du sérieux casse-tête, du fait en premier lieu de cet article 50, celui qui prévoit le départ d'un pays de l'Union européenne, mais c'est un article qui n'est absolument pas précis. Il dit simplement que les conditions du divorce devront être négociées. On doit donc négocier vite pour les uns, moins vite pour les autres. Mais tous sont d'accord sur un point, et c'est l'objet de différentes tribunes publiées dans la presse ce matin, mais également sur différents sites internet. L'urgence aujourd'hui, eh bien, de réinventer l'Europe.
Le Brexit pourrait avoir aussi des incidences sur le vote qui se déroule aujourd'hui même en Espagne.
Des élections législatives, seulement 6 mois après un scrutin qui avait débouché sur un Parlement morcelé et rendu impossible la formation d'un gouvernement, 4 principaux candidats postulent aujourd'hui au poste de Premier ministre et les partis traditionnels utilisent le vote britannique comme une arme contre Podemos, le mouvement anti-austérité de Pablo Iglesias. C'est notamment ce qu'explique Sandrine Morel dans Le Monde. Ce n'est pas le moment de faire des expériences ni d'ajouter des incertitudes à la situation actuelle, a ainsi lancé le conservateur Mariano Rajoy, chef du gouvernement intérimaire, qui souhaite évidemment le renouvellement de son mandat. Cependant, Podemos l'assure, pour la première fois, nous pouvons gagner. Récit de la fin de la campagne et des espoirs des partisans de Pablo Iglesias sur le site Mediapart, lequel Iglesias, allié à ses nouveaux alliés communistes, a promis de s'engager pour un changement de cap de l'Europe, d'une Europe juste et solidaire. Personne ne voudra s'en aller, personne ne voudra divorcer. Réinventer l'Europe, c'est bien le but aujourd'hui. C'est une voix qui compte dans la presse américaine. Lauréat du prix Pulitzer, le célèbre éditorialiste conservateur George Will a annoncé qu'il venait de claquer la porte du Parti républicain. Il écrit notamment dans le Washington Post et travaille également pour la chaîne Fox News. Mais désormais, il appelle à faire battre Donald Trump, quitte à prolonger le bail des démocrates à la Maison-Blanche, serrer les dents pendant 4 ans, mais ne donner surtout pas d'argent à Trump, a-t-il exhorté cette semaine, dans une chronique de son journal soulignant qu'une victoire du candidat républicain serait donc pire encore que celle d'Hillary Clinton. Et en France, qui portera donc les couleurs de la droite pour l'élection de 2017 depuis plusieurs mois, c'est Alain Juppé qui caracolait en tête des sondages, mais désormais ça se resserre avec Nicolas Sarkozy.
Oui, c'est ce que montre l'enquête Odoxa que publie ce matin Le Parisien.
Enquête Odoxa, grande première chez les sympathisants de droite et du centre. Interrogé sur la primaire, Nicolas Sarkozy repasse même en tête des intentions de vote chez ses électeurs. Il gagne 5 points en un mois, tandis qu'Alain Juppé en perd 7. Et en cas de duel au second tour, le maire de Bordeaux reste certes devant, mais baisse de 11 points, tandis que l'ancien chef de l'État progresse d'autant. Chez les électeurs de droite, 53% d'intention de vote pour Alain Juppé au second tour de cette primaire, 47% pour Nicolas Sarkozy. Dans le camp sarkozyste, on se réjouit bien sûr, expliquant que l'ex-président incarne clairement le leadership dont les Français ont besoin. Et dans le camp Juppé, on assure ne pas s'inquiéter, les sondages ne sont que des sondages. Et d'après ses amis, l'Aquitain en aurait encore beaucoup sous la semelle. Le journal revient également sur le saccage du siège de la CGT à Montreuil en Seine-Saint-Denis, 2 jours après celui de la CFDT. Des portes et des vitres cassées, des actes fermement condamnés par le Premier ministre. D'autant que ce genre d'intimidation se multiplie ces derniers temps. Le patron de la centrale, Philippe Martinez, a reçu récemment par lettre anonyme des menaces personnelles jugées sérieuses. En conséquence, des mesures ont été prises pour assurer sa sécurité. Sa directrice de cabinet a également été agressée. Et depuis 15 jours, plusieurs membres de la direction de la CGT ont reçu eux aussi des courriers anonymes avec des photos de cercueils. La CGT qui appelle à une nouvelle journée de mobilisation nationale mardi contre la loi travail. On n'en connaît pas encore les conditions. Ce dimanche, c'est par ailleurs une journée de référendum en Loire-Atlantique. Projet d'aéroport, à vous de décider, titre Presse Océan. 967 500 électeurs sont appelés à se prononcer sur le projet de transfert de l'aéroport Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. Scrutin hautement polémique en cas de victoire du oui. Les travaux pourraient commencer dès cet automne, puis durer de 3 à 4 ans. En cas de victoire du non, une indemnisation du concessionnaire Vinci paraît inévitable et elle pourrait atteindre 200 millions d'euros. A priori, ce n'est pas encore la fin des turbulences. 2 autres infos glanées dans la presse régionale. D'abord dans Midi Libre, qui s'intéresse au très sérieux championnat de France de barbecue.
Oui, celui auquel vous participez.
Les cadors du barbecue passent au grill. Joli titre. C'est en Camargue jusqu'à ce soir. Et puis à la rubrique Tourisme, le courrier de l'Ouest nous apprend que 7 millions de Français sont tentés cet été de se mettre au naturisme.
Là aussi, vous êtes adepte.
7 millions, c'est énorme. 7 millions, c'est énorme, mais nettement moins que ceux qui seront devant leur poste de télé cet après-midi. Ils seront 15 millions, si l'on en croit le Parisien.
15 millions, donc, pour suivre le match France-Irlande.
Avec en ligne de mire une qualification pour les quarts de finale de l'Euro de football. Faites-nous plaisir, enflammez-nous, exhorte le quotidien Sa Une, avant de se fendre d'une lettre à l'adresse de Didier Deschamps. Didier, tu n'es pas sans savoir que le monde ne tourne pas rond en ce moment. Dernier épisode en date, les Britanniques nous plantent et on a toute l'Europe à reconstruire dans la foulée. Toi, Didier, c'est l'euro que tu vis d'intérieur, alors s'il te plaît, pas de Frexit intempestif. Les Bleus ne veulent pas sortir de l'euro, abonde à Sa Une sud-ouest, tandis que la Provence souligne qu'il y a de l'orage dans l'air. L'air, E-I-R-E, rapport donc à l'Irlande, même jeu de mots à la une du courrier Picard. La France doit prendre l'air, E-I-R-E. L'écart, on y croit, lance pour sa part la dépêche du midi avec une grande photo de Dimitri Payet. Hier, on s'étonnait de la prononciation du nom de famille du nouveau héros de l'équipe de France, Dimitri Payet, alors que cela s'écrit Payet. Or, si l'on dit Payet, eh bien, c'est tout simplement parce que le joueur est natif de Saint-Pierre sur l'île de la Réunion. Et là-bas, donc, Payet se prononce Payet. Voilà l'explication. En revanche, si Dimitri était né à Suresnes, comme Julie Gayet, on dirait Dimitri Payet. Quant à Julie Gayet, si elle était réunionnaise, on devrait tout naturellement l'appeler Julie Gayette. D'ailleurs, je vous trouve bien Gayette ce matin, Patricia. Ça sentirait pas les vacances?
C'était, un petit peu. C'était la revue 13 de Frédéric Pommier.